Dupont le matin.
It's the most wonderful time of the year.
Moi, j'aime bien la musique de Noël aussi. La musique du temps des fêtes, la musique de Noël.
Hey, normalement, par exemple, on va-tu se garder un peu de joint juste après,
c'est Laurent, ça,
après l'Halloween?
Tu penses-tu que j'ai de quoi avoir
c'est
là-dedans?
C'est pas Pierre, ça.
OK, normalement,
là, t'entendrais ça.
Au FM 93, les sports avec Ray Cloutier.
Juste savoir, là, tu sais, puis je suis comme Ray, moi aussi, j'aime ça, la musique de Noël, ça m'a jamais tombé ses nerfs, puis au contraire, ça me met un sourire, bien souvent, mais on s'entend-tu que c'est après l'Halloween?
Après l'Halloween, oui.
Après l'Halloween, OK.
Mais là, Laurent, il a trafiqué l'émission complète, j'aime mieux te le dire.
Ah ouais, c'est correct, j'aime ça,
c'est
ses idées.
À cause de la neige, là.
Les journées qu'il prend pas ses pelules, il est quand même drôle.
C'est
sûr. Hey, Ray, je commence par une bizarre de question.
OK.
J'ai-tu rêvé? Y a-tu du football à soir?
Non, il n'y a pas de football.
Mais non, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de game en suspens dans le football de la NFL?
Non. Tout a été replacé dans l'horaire. L'horaire a été modifié, là, mais tout est en place. Là, pour l'instant, il n'y a pas de match qui est à reprendre.
Hey, c'est vraiment un rêve que j'ai fait.
Oui.
J'ai vraiment rêvé qu'il annonçait qu'il y avait... Puis c'était une grosse game, genre les Steelers contre... puis là, j'étais content. J'ai dit, enfin, yes, là, du football mardi soir, j'ai rien.
Yes.
Mais là, il y a du baseball, mais OK, il n'y a pas de football. Okay, là, donc, la semaine numéro 7 est finie.
Oui.
Fait qu'on passe
déjà,
à la
on arrive à la mi-saison pour quelques équipes. Les semaines 8 et 9, là, t'arrives à la mi-saison déjà dans la NFL.
Puis la majorité des équipes s'en sont bien tirées jusqu'à maintenant.
Jusqu'à date, ça joue.
Fait que c'est encourageant. Mais voilà, je te laisse commencer le bulletin de sport de ce 27 octobre 2020.
Ben, je vais revenir sur le match du lundi soir hier pour compléter la semaine numéro 7, justement, dans la NFL. Les Rams de Los Angeles qui accueillaient les Bears de Chicago. Petit aparté, mais le stade des Rams, le SoFi Stadium, c'est magnifique. À un moment donné, on va peut-être pouvoir y aller. Là. C'est extraordinaire.
Je trouve qu'hier, on l'a mieux vu. Hein?
Ouais. Il y a comme une couronne là, à l'intérieur du stade. C'est comme l'écran géant, dans le fond, là, qui fait le tour du stade. Là.
Mais elle fait en dedans et dehors. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu sais, mettons, à Atlanta, là, quand ils ont fait le Mercedes...
Mercedes-Benz Stadium.
Les autres, ils ont mis l'écran géant en rond autour de l'anneau central.
Ouais.
Ben, au SoFi Stadium, ils ont fait la même affaire. Ils ont fait une couronne suspendue d'écran géant qui est en continu.
Ouais, c'est ça.
Que tu vois à l'intérieur de l'anneau. Mais ceux qui sont assis, là, les billets les moins chers, c'est également un écran dans le dos de l'anneau. Pas se comprendre.
Oh, oui.
J'ai trouvé ça hot. Donc, c'est l'écran des deux bords de cet anneau-là. Fait que c'est impressionnant. C'est combien de monde à peu près?
Faudrait que je vérifie.
OK. Puis l'autre question que j'ai, il y avait à l'entrée, là, parce qu'il n'y avait pas de monde, évidemment, mais ils ont montré des genres de pas de dessins, mais il y avait de l'affichage de fait. Il y avait l'affaire des Lakers.
Oui.
Mais les Lakers ont quoi à voir là-dedans?
C'est Los Angeles. C'est juste que. Puis ils ont fait un lien un moment donné avec les Lakers et les Dodgers, là, comme quoi ils pouvaient gagner un titre depuis très longtemps.
OK.
Ben oui, depuis très longtemps, les deux équipes.
OK.
C'est comme pour parler du paysage sportif professionnel de Los Angeles.
OK. Dernière question. crime. Là, puis à un moment donné, j'ai reculé la TV pour bien entendre. C'était parce que des fois, mon anglais est injuste. C'est vraiment à Inglewood.
Oui.
Il y a un genre de stade rond, là, avec des poutres, là.
Ça, c'est l'ancien forum, d'après moi.
Oh, OK. Ils ne jouent plus là, les Kings?
Non.
OK.
Mais je me demande ce qu'ils ont fait avec ça. Comme l'ancien forum de Montréal, c'est devenu c'est de la technologie, je pense, ou du divertissement dans
mais
ça.
Est-ce qu'eux autres, c'est rond encore? Hey, c'est perdu dans le milieu de nulle part.
Je suis allé, moi, à l'ancien forum.
OK.
Je suis allé voir un match des Lakers, justement, dans les années 90.
OK.
Ouais.
C'est vraiment à l'écart du centre-ville?
Oui. Oui,
OK.
Oui.
Il y avait du stationnement à perte de vue.
Oui. Mais autour du SoFi Stadium, ils veulent faire une ville en tant que telle. Je pense que c'est pas terminé, le développement, le résidentiel, puis tout le kit. Là. Ils veulent faire une grosse affaire.
Oui, oui. C'était des milliards. Là. C'était des complexes, des tours d'habitation, puis tout ça, qui vont se bâtir autour du stade.
Oui.
Mais ils sont déménagés où, les équipes qui jouent au Forum?
C'est maintenant le Staples Center.
Oui. OK, mais c'est-tu loin de là? C'est-tu encore dans le même quartier?
C'est pas là.
C'est pas là pantoute.
Non, c'est pas là.
Le forum, il a été le Colisée d'Inglewood. Il a été propriété notamment d'une église américaine qui l'a acheté 23 millions de dollars, mais ça a été racheté par le propriétaire des Clippers pour 400 millions de dollars en mai dernier.
OK, donc lui, il veut peut-être construire une aréna, là.
À l'évidence, il y a un petit quelque chose, là.
OK,
là.
OK.
Le spot. Il a acheté le spot.
L'église avait payé 23 millions.
Ouais, lui, il a payé 400.
Il y a-tu quelqu'un qui a dit que c'était fou?
Un petit peu, hein?
Il voulait. Vous me l'enlèverez pas certain. Ça va être à moi, cette affaire-là.
Oh, voilà. C'est SoFi Stadium. SoFi étant?
Une compagnie dans les technologies, là.
OK.
Ouais, une nouvelle technologie. Et puis, c'est ça, Stéphane.
Bon.
D'autres questions?
Est-ce que les bains, ils ont déjà vu des fesses?
Ben non, je crois pas.
Pour aucune parce que c'est ouvert, là, comme
Vegas.
Il y en
a des grosses, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des slacks.
C'est l'ouverture cette année du SoFi Stadium. Donc,
les bains ont jamais
c'est à venir. Pour les fesses, c'est à venir.
OK.
C'est j'imagine qu'ils vont être très bien assises. Là.
Ah, j'imagine que
ça devrait être très confortable.
OK. Puis, bon match?
Très bon match. Moi, j'ai aimé ça. C'était plus pour les puristes hier, en ce sens que c'était pas un match très spectaculaire offensivement, mais la défensive des Rams, moi, j'ai adoré voir cette défensive-là évoluer. Surtout, Aaron Donald, le numéro 99, l'ailier défensif des Rams, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur à sa position présentement dans la NFL. Et les Rams ont gagné 24-10 contre les Bears de Chicago. Les deux équipes ont maintenant des dossiers de 5 victoires et 2 défaites. Puis 2-3 observations par rapport à ce match-là. Premièrement, je sais pas comment les Bears ont fait pour gagner 5 parties avec l'offensive qu'ils ont là. C'est sûr qu'hier, ils affrontaient une très bonne défensive. Il se passait rien. Rien. Pas du tout. Que ce soit au sol, par la course, par la voie des airs, il n'y avait rien que les Bears étaient capables de créer en attaque. Puis, et je me disais, mais là, ça marche pas. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire marcher ça pareil avec les joueurs qu'ils ont là? Puis, je comprends pas comment les Bears ont réussi à gagner 5 parties. Autre observation, un des joueurs clés dans ce match-là, ça a été le botteur. Le botteur de dégagement des Rams, son nom, c'est Johnny Ecker. En moyenne, il a botté pour près de 45 verges par coup de pied de dégagement. 5 bottés au total, mais il botte d'une façon particulière. Il place son ballon, le ballon est ovale, il le place vraiment debout là, avant, pour le botter. Là, il le place debout, puis il le frappe d'une certaine façon.
Mais debout sur le support, là?
Non, pas debout. C'est un botteur de dégagement. Donc, okay, tu peux pas le placer sur le
mains.
Sport, oui.
Okay.
Il le place comme ça dans ses mains, là, puis le ballon, il est pas au 45 degrés, il est vraiment droit,
debout.
Là.
Okay.
Il le botte souvent comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que la rotation du ballon, le ballon, il tombe comme s'il tombait dans une chaudière. Tu comprends? De haut en bas. Le ballon, il tombe vraiment de haut en bas. Il fait ce qu'il veut avec ça. Puis des fois, il fait rebondir le ballon drette là. Puis c'est les commentateurs qui racontaient ça. Il l'a pas fait hier. Des fois, il le botte d'une certaine façon que le ballon, il tourne de côté. C'est un gars super habile pour faire des bottés. C'est un Australien, sauf erreur. Et puis, il a joué le rugby australien, là, qui est un sport où, c'est ça, les meilleurs botteurs, ce sont les meilleurs joueurs très souvent. Puis là, ben, ce gars-là, hier, c'était fantastique. Il faisait ce qu'il voulait. Il a placé le ballon à l'intérieur de la ligne de 10 2 fois. Puis tu vois que c'était vraiment ça qu'il voulait faire. Le ballon, il tombe comme une chandelle.
Parce que c'est... ils n'ont plus besoin de puissance.
Non.
Les botteurs de dégagement, la puissance, ils l'ont tous.
Ça très haut.
C'est de le botter haut pour laisser le temps aux joueurs en défensive de se rendre au point.
De se rendre.
Et puis de le placer où ils veulent.
Il n'y a aucune chance de faire des retours. Puis ça a été un des moments... Comme c'est un match défensif, c'est un match de positionnement sur le terrain. Les Bears avaient toujours un long terrain à parcourir très souvent, à tout le moins. À la fin du match, là, ils perdaient 24-10. Ils se sont retrouvés à leur ligne de 6 ou 7 pour repartir, pour aller essayer de marquer un toucher l'autre bord. T'as 95 verges à parcourir pour aller marquer un toucher contre une excellente défensive. Donc, toutes ces combinaisons-là ont fait que les Rams ont eu le contrôle de cette partie-là. Mais Aaron Donald, c'est un joueur exceptionnel. Puis c'est aussi, dans la vie de tous les jours, un athlète qui est très reconnaissant pour ce qu'il a comme talent et ce qu'il a eu, la chance qu'il a eu. Lui, il a joué à l'Université de Pittsburgh. Et l'an passé, Aaron Donald a donné plus $1 million à l'Université de Pittsburgh pour le centre d'entraînement de l'équipe de football, la salle d'entraînement.
C'est
maintenant.
Formé.
Je sais que c'est fermé, mais maintenant, le centre d'entraînement de l'Université de Pittsburgh porte le nom de Aaron Donald. Et,
c'est les Panthers, là, l'équipe qu'on a parlé la semaine passée. Ah, ouais,
okay. Exactement. Et puis, il y a des murs. Son nom est sur les murs là-bas. C'est non seulement ça a été probablement un des joueurs les plus marquants de l'histoire de l'Université de Pittsburgh, parce qu'il y a eu un dénommé Dan Marino dans les années 80 également. Pas celui qui a parlé à TV hier, là. Celui qui a lancé des passes de toucher pendant toute sa carrière de joueur. Puis Aaron Donald, c'est sûrement un des meilleurs joueurs issus de l'Université de Pittsburgh dans l'histoire. Mais il redonne beaucoup, puis il dit « Je vais en redonner encore pour aider mon alma mater. » Ça, c'est une mentalité plus américaine,
oui,
de toute façon.
Mais,
là.
Oui, mais dans le sens où regarde les gars, là, souvent, là, on nomme des joueurs de la NFL, tu me dis « Oui, lui, il a joué à telle université. » Mais ça veut pas dire qu'il vient de cette région-là, parce que les universités américaines vont solliciter des joueurs de tout le pays.
Ouais.
Fait que c'est drôle que ce qui devient leur chez eux, c'est l'endroit où ils ont joué à l'université, mais vraiment leur lieu de naissance ou leur patrie, si on défend, on le sait un petit peu moins.
Effectivement. Donc, les Rams, hier, ont joué un fort match pour l'emporter. Puis, comme à la fin de chaque semaine, il y a des blessures dans le monde du football, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la réalité d'une saison de football. Hier, la blessure la plus dommageable qu'on nous a annoncée, je crois, c'est celle d'Odell Beckham Jr., le receveur de passe des Browns de Cleveland, qui est perdu pour le reste de la saison.
Ah, oui.
C'est blessé à un genou, le croisé antérieur, qui est endommagé. Et c'est une lourde perte parce que c'est un joueur clé, c'est un joueur important pour le carrière Baker Mayfield, c'est comme son dépanneur. Baker Mayfield, il sait toujours où est Odell Beckham Jr. sur n'importe quel jeu. Peut-être, il a pas l'intention de lui lancer le ballon, mais s'il se retrouve dans le trouble, qu'il doit lire sa deuxième, troisième lecture, c'est Odell Beckham Jr. qui va souvent être son dépanneur. Et là, ben, il a perdu son meilleur receveur de passe. Les Browns qui ont un bon début de saison, mais devront maintenant faire sans les services de ce talentueux joueur. Et on a parlé des Steelers hier, qui ont 6 victoires et aucune défaite, la seule équipe toujours invaincue.
Super Bowl.
C'est la deuxième fois que les Steelers débutent la saison avec 6 victoires de cette façon-là. L'autre fois, c'est arrivé en 1978 et ils avaient gagné le Super Bowl cette année-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le gagner cette année, mais ça veut dire que c'est un début de saison exceptionnel pour les Steelers. Ça arrive pas souvent de gagner leurs 6 premières parties.
Puis c'est une belle mentalité dans le monde du sport. Ils ont eu 3 entraîneurs dans les 50 dernières années.
Exact.
C'est tout le temps les mêmes. Puis celui avant Tomlin qui est parti.
Bill Cowher.
Il
est parti lui, parce que sa femme avait le cancer.
Sa femme est décédée.
Elle est décédée. Puis il était aussi...
Au bout du tape.
Ouais, il en avait assez. Là. Il a passé quand même plus de 15 ans avec les Steelers. C'est demandant à diriger un club de football.
Mais l'autre d'avant,
ils
ont beaucoup parlé. Ouais, mais lui, je m'en souviens pas. Mais lui, il a eu de grandes équipes entre les mains là, parce qu'ils ont gagné
4-5 Super Bowl.
À travers toutes les années où il était là. Okay.
Oui. The Steel Curtain des Steelers dans les années 70, 78 entre autres. Là.
Okay.
C'est une des années où la défensive des Steelers est incroyable.
Okay.
Mean Joe Green, puis Jack Lambert, puis Jack Ham.
Mais hier, en écoutant le match...
Avec Terry Bradshaw comme carrière.
Hier, en écoutant le match, je me mettais... Parce que les Bears ont une bonne défensive aussi. Là.
Oui.
Ils ont été un peu indisciplinés hier, mais je me disais, mettons une équipe là, qui a une défensive incroyable, mais que le carrière, il est pourri, mettons, puis ils n'ont pas d'attaque.
On
là.
A déjà vu ça, oui.
Mais je sais pas, ça a-tu envie de chicaner sur le banc? Ou bien, tu sais, puis en plus, c'est brûlant d'être tout le temps... Si ton attaque n'est pas bonne...
Oui.
Toi, t'es une bonne défensive, mais t'es affaibli parce que t'es tout le temps sur le jeu.
Oui.
Fait que ça, je me disais, tu sais, c'est une roue, des fois, qui peut se mettre à virer à l'envers.
Ici, si je reprends ça au plus local, le Rouge et Or a souvent eu de très, très bonnes défensives avec des attaques quand ça fonctionne pas tout le temps. Et il peut y avoir du pointage de doigts, mais c'est là que tu testes le leadership de ton équipe. Là. Ça travaille beaucoup en unité, donc les joueurs défensifs sont souvent ensemble, les joueurs offensifs ensemble. Les unités spéciales, c'est des bébites particulières, ces gars-là. Là. C'est des gars un peu spéciaux. Ça travaille en unité, donc...
Mais peuvent-tu saillir?
Ben, en bout de ligne, s'il y a un groupe qui fait toujours le travail puis l'autre le fait jamais... Ben oui, à un moment donné, c'est comme une équipe de hockey, si t'as une bonne offensive, ton goaler donne 5 buts à chaque fois qu'il reçoit 10 lancés, à un moment donné, le goaler...
Ton exemple est bon parce que le Rouge et Or n'ont pas toujours eu les meilleurs corps arrière de la Ligue. Là.
Ouais.
Puis ils ont dominé dans bien des années, puis c'était pas en attaque, c'était pas parfait. Là.
Puis honnêtement, c'est plus... Et là, je fais attention, mais c'est plus facile de jouer défensif qu'offensif. Offensif, faut que tu crées des choses, puis des fois, ça marche juste pas. défensivement, tu réagis, puis défensivement, tu peux...
Tu peux être absent dans le casque, mais être très fort physiquement, puis ça peut être... C'est ça que tu voulais dire?
Ouais, oui et non, là. Parce que...
Mais au moins, offensive et défensive, ils les assoient pas sur le banc en même temps. Fait qu'ils peuvent pas s'engueuler. Ils se croisent, ça, c'est sûr.
Les 10 qui sortent, les 10 qui rentrent. Envoie, je vois le verre. Ça peut arriver, là. Tu peux laisser aller.
Ça fera bien que tu resteras là 5 minutes, que je reprenne mon souffle. Là. C'est moi le plus gros des deux.
J'ai envie de pisser, là. Fait que, envoie. Fait quelque chose. Mais oui, ça peut arriver. C'est sûr que ça peut arriver. Aucun doute là-dessus. À part de ça, un peu de baseball ce soir. Peut-être le dernier match d'une saison rocambolesque dans le baseball majeur. Les Dodgers en avant 3-2 sur les Rays de Tampa Bay. C'est toujours au Globe Field de Darlington au Texas. Si jamais les Rays gagnent ce soir, bien il y aura un match numéro 7 demain. Les Dodgers qui ont pris les devants 3-2 avec une victoire dans le match numéro 5 n'ont pas gagné la Série mondiale depuis 1988. Pour l'organisation des Dodgers qui est passée de Brooklyn à Los Angeles, ce serait un 7e championnat de Série mondiale si jamais ils gagnent ce soir. Blake Snell sera le lanceur partant pour les Rays de Tampa Bay et Tony Gonsolin pour les Dodgers. Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, hier a dit on s'attend à 5-6 manches de Gonsolin aujourd'hui. En fait, il a commencé par dire on s'attend à une performance un peu plus longue que la dernière fois de Gonsolin parce qu'il avait lancé une manche et un tiers. Ça, c'était le match numéro 3, je pense. Fait que c'était pas difficile de demander un petit peu plus long de Gonsolin comme lanceur partant, mais Roberts aimerait ça qu'il attire ça à 5-6 manches. Puis ensuite, il y a confiance que sa relève peut aller finir le travail. C'est un peu le même principe chez les Rays de Tampa Bay. Là. Ils se basent beaucoup sur leur relève. Puis hier, il n'y a pas eu de match. Donc, tout le monde est reposé ce soir. À peu près tous les lanceurs, sauf les deux qui doivent partir dans le match numéro 7, s'il y en a un, vont être disponibles. Théoriquement, les lanceurs partant pour le match numéro 7, c'est Buehler pour les Dodgers et c'est Morton pour les Rays de Tampa Bay. Mais en même temps,
ça,
les
ça
Rays...
Ça veut dire que Kershaw, sa saison est finie?
Mais il peut venir en relève, puis il va venir en relève s'ils en ont besoin.
Il a déjà gagné quand même 2 décisions dans la série.
Il a
quand même fait mentir ses détracteurs jusqu'à maintenant.
Ben, détracteurs, c'est comme je dis, moi, c'est, je disais juste que les lanceurs, ils t'aident de là, ils vont avoir aidé 2 fois là, jusqu'à maintenant.
Ouais.
Fait que,
ils ont gagné au moins, ces deux-là, ils ont gagné.
Ils ont gagné ces matchs-là. Ouais.
Dodgers 88, quelques noms de cette équipe-là. T'as nommé Fernando Valenzuela tantôt, c'était un des meilleurs lanceurs. Aurel Hersheiser était un des lanceurs aussi. Steve Sachs au deuxième but. Steve Sachs qui avait de la misère à lancer la balle au premier but à un moment donné.
Ça, c'est normal au deuxième.
On les cache là. Il n'y avait pas de bras ou quoi?
Ah, mais il y avait un bras, mais c'était mental. C'était mental. C'est devenu mental son affaire. Puis il n'était pas capable. Il captait un roulant. Puis il avait de la misère à lancer la balle au premier but, qui est à peu près à quoi? 30, 40 pieds, 50 pieds maximum. Puis c'était mental son affaire. Tirait ça par-dessus. Tirait ça avec un.
C'est vrai?
Oh, oui.
Ah, je ne sais pas de ça. Puis là, c'est quoi? Il s'est mis à porter des jarretières de filles?
Non,
ou,
mais sa carrière a comme pris fin comme ça.
Des jarretières d'hommes.
Des jarretières d'hommes, oui.
Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le film, là, des fois, ils jouent dans la tête du monde.
Si tu trouves quelque chose de spécial, puis que ça marche, tu le refais.
Ah, ouais, c'est ça.
Mike Sciocca était le receveur des Dodgers. Je l'ai toujours aimé.
C'est lui
Mike
qui coachait. Il coachait encore les Angels, lui?
Mais
c'est celui-là. C'est
Mike. Oui, c'est ce gros-là.
Okay. Oui, c'est ce gros-là. Pedro Guerrero était un des joueurs des Dodgers. Aucun lien de parenté avec Vladimir et Wilton. Puis Kirk Gibson avait frappé le coup de circuit gagnant sur une patte. Il était venu comme frappeur suppléant. Il jouait pas parce qu'il était blessé à une jambe vraiment. Il pouvait pas courir.
Okay.
Il est venu comme frappeur suppléant. C'était contre les A's d'Oakland et contre Dennis Eckersley. Puis il a frappé le coup de circuit gagnant. Il a frappé la balle. Gibson est un frappeur gaucher. Puis le lancer de Eckersley est au coin extérieur du marbre. Puis vrai, elle basse. Là. La balle, c'est pas une prise. C'est sûr, c'est pas une prise. Mais Gibson, il s'est étiré tout son long. Il a quasiment frappé juste avec un bras. Puis il est allé porter ça dans le champ droit. Puis il était pas capable de courir. Il boitait.
J'ai vu ces images. Je pense à ça.
1 milliard de fois. T'as vu ça? Il se craint, puis il est là, puis il est content, il célèbre. Hein?
Il y a de la misère à faire le tour. Ouais. Là.
C'était comme la fin de sa carrière, Kirk Gibson, parce que ça a été un grand joueur des Tigers de Détroit. Puis là, il était en fin de carrière, puis il est arrivé avec les Dodgers pour gagner le championnat. Puis c'était Tommy Lasorda qui était le gérant des Dodgers.
Ah oui, c'est vrai. Okay. Hey, c'est cool, ça, de se rappeler d'histoire comme ça. Hey, hier, moi, j'ai écouté Manger l'histoire encore.
Oui.
Tu sais, les deux gars qui mangent des enfants passés là. Et Caroline, mais là c'est plate parce que eux autres leur émission c'est sur la nourriture, c'est l'histoire avec la nourriture. Mais les Reggie's c'était des petites barres de chocolat d'énergie, un genre de barre tendre, mais plus chocolat, beurre de peanut, puis donc ces affaires-là. Ça avait été lancé en 1976 quand Reggie Jackson a joué avec les Yankees. Moi, je savais pas ça. Là. Écoute, ça dure pas longtemps. C'était une petite capsule sur ces barres tendres-là, puis les gars en ont retrouvé une boîte. Mais finalement, ils se sont aperçus que c'était pas une boîte originale de l'année 76, mais une 93. Oh. Parce qu'en 93, ils ont retiré son chandail. Fait qu'ils ont relancé les Reggies aux États-Unis. Juste
il restait des stocks un peu.
Ouais, fait qu'eux autres, ils ont reçu une boîte de barres tendres de 1993.
Monsieur Octobre, Reggie Jackson.
Ouais, mais là, c'est ça que je savais. Premièrement, là, ça, Monsieur Octobre en 78, c'est ça?
Contre les Dodgers. Trois circuits contre Bob Welch.
OK. Mais y a-tu. Tu sais, là, suite à trois circuits dans le même match. Ouais. OK. Mais avant ça, premièrement, il a signé comme joueur autonome, lui, avec les Yankees.
Il jouait avec
les Aces. Un des premiers joueurs autonomes de l'histoire du baseball.
Oui.
De ce qu'on disait hier dans le documentaire. Ouais. Là, avec ses lunettes. Moi, honnêtement, je me souviens pas tant de ça.
Et puis lui, il se battait avec le gérant sur le banc. Billy Martin,
okay.
Il y a des altercations. Il pourrait faire des livres sur toutes les altercations entre Reggie Jackson.
Mais pourquoi? Et Billy
Martin.
Parce qu'il
ne
jouait pas?
Ben, Reggie Jackson, c'était une tête forte un peu pareil. Là.
Okay.
Puis il tenait tête au gérant. Billy Martin, c'était un drôle de moineau aussi. Billy Martin, il s'est fait embaucher et congédier 5 fois par George Steinbrenner. Il arrivait le matin au stade, puis il sacrait des hors.
Okay,
il pouvait le réembaucher l'année d'ensuite.
C'est pour ça que dans le documentaire d'hier, il disait que Reggie Jackson, il parlait juste à Steinbrenner.
C'est ça.
Et c'est avec lui qu'il avait signé un contrat en millions de dollars. C'est pas tant impressionnant, mais pour l'époque, ça l'était.
Oui,
puis
oui.
Il était une superstar là, avec ses lunettes. Il allait au bâton avec des lunettes un peu fumées.
Il aimait ça, là.
Ah,
il aimait
ça
en mettre. Là.
Et il a dit... Un jour, je vais avoir une friandise à mon nom.
Okay.
Et c'est comme ça que après ces trois coups de circuit.
Trois circuits dans le même match contre Bob Welch.
Il devient Monsieur Octobre, il gagne la Série mondiale.
Oui.
Puis au début de la saison suivante, il lance les Reggies, là, ces barres tendres là.
Cette année-là, il avait éliminé les Red Sox de Boston. C'est un circuit. C'est Bucky Dent qui avait frappé un circuit là, dans le champ gauche, le petit arrêt court, Bucky Dent qui avait frappé une balle à 302 pieds. La clôture à 300 à peu près. Il avait frappé une balle à 302 pieds pour mettre aux Yankees de gagner. Mais Reggie Jackson, c'est sûr. Il avait un bel élan, Reggie Jackson. Puis il tombait. Souvent, il tombait sur son genou droit quand il avait fini son élan. C'était un gaucher.
Okay.
Il tombait sur son genou droit, mais il réussissait quand même à pelleter dans le champ droit. Là.
OK. Hey, c'était vraiment intéressant. Et, juste pour conclure, pour les amateurs de bouffe, là, le barbu, là, Smokey, il a mangé la Reggie's de 93. Puis, il la craignait parce que le beurre de peanut qu'il avait ajouté à travers les années est un produit qui se sépare et qui fait que quand l'huile se retire, l'huile se retire ça, ou se sépare du beurre de peanut, ça devient extrêmement nocif.
Okay.
Et hier, il en a pris une grosse bouchée. Il est obligé de la recracher et il avait la bouche complètement engourdie, comme s'il avait été gelé sur le dentiste. Puis il dit que c'est bien, il savait que ça allait faire ça parce qu'ils savent que quand c'est des produits d'arachide puis que l'huile se sépare, ça fait toujours ce phénomène là d'engourdissement de la bouche.
Puis tu peux-tu le mélanger une fois que ça a décanté ou c'est
non, mais là c'était dans une barre sèche là, fait qu'il l'a recraché dans la poubelle.
Puis dans un
drôle en tabarnak.
Dans un pot, mettons de beurre de pinot, ça serait-tu le même calcul si ça se sépare pas, là,
j'imagine que oui, j'ai déjà eu des petits copes de beurre de pinot au restaurant puis des fois l'huile est tout de suite dessus.
Oui,
là.
Oui.
C'est fatiguant ça. Mm. Hey, l'autre fois j'étais tout habillé propre. Où j'arrive déjeuner le matin, tu m'es habillé pour la journée, j'ouvre mon petit cop de beurre et peanut, l'huile me coule toute dessus.
Mm-hmm.
J'ai une grosse coulisse de bave, là, tu sais, puis tu sais, moi, ça fait une vague, là, ici. Fait que, OK, je m'excuse, mais.
Beau cheval.
Les
Reggies. Donc, on peut trouver une Reggies présentement.
Non, ils en ont refait en 93. Okay. Comme j'ai été. C'était quoi son numéro?
44 avec les Yankees, mais 9 avec les Aces d'Oakland.
OK, puis ils ont-tu retiré les deux?
Mmh.
Parce que mais avec les Yankees, ils sont c'était son intronisation au temple de la renommée en 93 quand ils ont relancé les Reggies. C'était pas la retraite de son chandail. Probablement qu'il y a eu lieu là,
sûrement.
Mais je m'en souviens pas. Okay.
Les Yankees ont retiré tous les numéros de 0 à 9 là. Hein? Il en reste plus là.
Ok, un peu comme le Canadien.
Ouais, quasiment.
Ok.
Il en reste plus le Canadien de 0 à 9.
6.
Pierre Mondou et Jim Roberts, ils ont pas retiré ça, non?
Aurel Joliat, lui.
Aurel Joliat, c'était 4, mais c'était avant Jean Béliveau.
Ok. Mais le Canadien, est-ce qu'il reste des numéros entre 0
0 et 9?
Ben 0, jamais personne qui a pris le 0 là.
Non.
Les Yankees, y avait-tu un 0?
Je pense. Non, je pense pas. Je pense pas, non. Okay. Non, 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 parce qu'il y a un lanceur qui l'avait le 0 pas cette année, l'année passée. Otavino, je pense que ça.
Parce qu'il y a un joueur du Canadien qui voulait le 0. Ils ont dit non, Carey, fais pas ça, ça sera pas bon pour ton image.
Trop facile.
Hey, dans mes t-shirts que je veux donner peut-être au monde.
Non, Carrie.
J'ai un Habiator.
Oh.
C'est-tu? Je pense que c'est Dan Ferland qui a fait ça. Ouais.
Oui.
Je l'ai encore dans mon garde-robe.
Ben oui, ben oui. Ben deux, trois choses en terminant. D'abord, Denis Shapovalov au tennis a été particulièrement mauvais hier. Il a commis 10 doubles fautes, ce qui est beaucoup dans un match qui a duré seulement 2 manches. Shapovalov était la tête de série numéro 8 du tournoi qui a lieu cette semaine à Vienne, en Autriche. Le circuit de l'ATP est de ce côté. Et ben il a perdu contre un Autrichien, justement, Rodionov, qui lui est classé 153e au monde. Ce que j'ai pas aimé de Shapovalov, c'est son attitude. Tu sais, quand t'as une mauvaise journée, toi, Steph, tantôt, tu disais, j'ai eu une mauvaise journée hier, un moment donné, c'est tel que tel, là, mais l'attitude de Shapovalov, il s'est sorti du match, en plus, qu'il jouait pas bien, il s'est sorti du match avec son attitude, il a brisé sa raquette au moins 2 fois. Le match était diffusé hier en fin d'après-midi à RDS et TSN. Puis j'ai pas aimé ça.
Mais ça, c'est l'ancien.
La raquette, puis bang, puis...
Ouais, mais c'est l'ancien Shapovalov.
Ouais, mais il arrivera à rien s'il continue, s'il reste dans ça, il se passera rien de bon là, dans sa vie, là, dans sa vie de joueur de tennis.
Mais tu te souviens, il faisait ça souvent au début de sa carrière. Qu'est-ce qu'il avait fait qu'il avait arrêté?
Qu'est-ce qu'il avait fait?
Tu fais juste un élément qui a fait qu'il a arrêté de faire le cave.
Sa mère, non.
Non,
sa mère et sa coach.
OK, mais il avait snappé à la balle d'un gosse.
Ah oui, c'est vrai.
C'était-tu un juge? Un juge de ligne, genre? Ou un spectateur?
L'arbitre, je pense. L'arbitre.
C'était l'arbitre sur la chaise en haut qui avait frappé?
Je pense.
OK.
En tout cas, il avait touché quelqu'un.
Il avait voulu. Frustré, il a voulu frapper à la balle, on sait pas trop où, là, puis il a fessé quelqu'un. Puis c'était. À partir de là, il s'est slacké pas mal, là.
Ses raquettes hier. Il en a brisé au moins 2 de ce qu'on a vu. Il a peut-être brisé d'autres pendant qu'on était pas. Qu'on n'avait pas l'image, là. Mmh. Ah, non. Il faisait tempête en dessous de la casquette, là. Ça allait pas bien hier, chapeau, là.
En janvier dernier, là, il a lancé sa raquette, il a crié après l'arbitre en frustration.
J'aime pas ça. Il y a du talent plein les oreilles, Denis Shapovalov. Ouais.
Bon, l'histoire du Canadien, Ray.
Vas-y.
Le numéro 1, Jacques Plante. Le numéro 2, Doug Harvey.
Doug Harvey, oui.
Bill
Nyra a porté le numéro 2 aussi, mais on en parle moins.
C'est un défenseur, ça. Il virait pas des deux bords.
Il avait un pinch. Ça, dans le temps que le Canadien gagnait 4-5 Coupe Stanley, il était 5e ou 6e défenseur. Il n'y a pas besoin de lui jamais, là. Il jouait quand c'était 5-1.
Le numéro 3.
Jean-Claude Tremblay.
Non, il l'a pas aimé, il n'est pas retiré. Hein, il y avait vraiment le numéro 3.
Brian Engblom a eu le numéro 3.
OK, mais est-ce que Jean-Claude Tremblay a marqué assez l'histoire du Canadien?
Il n'a pas assez joué longtemps.
Pas assez joué longtemps. Ouais.
Mais il était bon en joueur de
balle. Il était bon.
OK.
Faisait ce qu'il voulait avec la rondelle, lui.
Ouais, mais comment il s'appelle le nouveau qu'on a repêché? Kevin Goulet, là, qu'on a repêché.
Kaden Gooley.
Ouais, il devrait prendre le numéro 3. D'après moi, il va voir son chandail retiré.
Il n'est pas retiré, le 3, hein?
Non. Non, le 3 n'est pas retiré.
Butch Bouchard va porter le 3, je pense.
Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Jean Béliveau, le numéro 4, bien évidemment.
Ouais.
Bernard Geoffrion, le numéro 5. Harry Mowens, le numéro 7.
7, oui.
Donc, il n'y a pas de numéro 6 non plus.
Ben Chariot porte le 6. Non, Weber porte le 6, Chariot c'est le 8.
Ah, Weber
c'est ça,
porte le 6, on va probablement le retirer.
Non. On va le
faire. Le numéro 8.
Moi, j'ai les devant moi, là, je dirais...
Marc Tardy n'a pas porté le numéro 8 avec le Canadien? Non, peut-être pas avec le Canadien.
Okay. Mais Doug Jarvis, par exemple, avait le numéro 8, peut-être? Me trompes-tu?
Ben Chariot.
Je sais pas. Chariot, mais il n'a pas retiré en tout cas le 8, je vous le dis.
David Mailey portait le numéro 8.
OK. Hey, Maurice Richard, évidemment, le 9. Guy Lafleur, le 10. Decky Moore et le Yvan 12. Cournoyer ont le 12. Ça veut dire que le Yvan Lambert...
Non, ça n'a pas donné Yvan.
Mais toutes les barres autour du forum, ils l'ont retiré.
Sakou Koivu, ils ne retireront pas ça, là.
Il y a eu un cancer, quand même.
Ben oui.
Mais il a été capitaine 15 ans.
Non, arrêtez.
Non, c'est à coup quoi vous, non?
Non.
Moi, je suis dans le peut-être. Je suis pas dans le non, je suis dans le peut-être.
Il était pas vraiment beaucoup aimé.
Mais c'est parce que pour amener ton chandail, il ne faut pas que tu sois aimé, il faut que tu sois bon. Là.
Ben oui, mais il était aimé parce qu'il était bon. Là.
Non.
Les petits gars
c'était pas une assez bonne époque pour le Canadien.
Non, y a-tu gagné la Coupe cette année?
Ben non. C'est même pas proche. Ça n'a pas passé proche jamais.
C'est trouvé très bonne, celle-là.
Non, mais je ne sais pas. C'est parce que
jamais, Stéphane, ça n'a passé proche.
Ça fait combien d'années qu'on n'a pas gagné à l'étonnée? OK, c'est ça.
Toute la carrière de Sakou et toute la carrière de Carey.
OK.
Il a été drafté de l'année de la Coupe cette année, juste après.
OK.
Là, lui, il se disait, j'embarque d'une équipe qui gagne la coupe.
Oui, c'est bon, ça.
C'est fantastique.
À partir de là, il y a plusieurs numéros lousses. Le 13 est lousse, le 14 est lousse. Henri Richard, le numéro 16, est retiré.
Oui. 11, Coupe Stanley. Il a toujours dit, où vous pensez que je mets ma 11e bague?
Ah! T'as-tu déjà eu une réponse, toi?
Non, il n'y a pas
de réponse. Un petit pénis? OK, ensuite de ça...
Ça peut s'ajuster, ça, c'est
Serge Chamard, 18. Larry Robinson, le 19, est retiré. Bob Gainey, le 23, est retiré.
Oui.
Et ensuite, deux numéros de gardien de but.
Patrick, 33, puis...
l'autre. Tu l'aimes beaucoup, l'autre aussi.
L'autre?
Le 29.
Patrick
Ken Dryden. Ken Dryden,
c'est
pas ça. Il n'a pas joué longtemps.
8 ans, 6 Coupes Stanley.
C'est ça. Ça a bien été. Puis il était très, très bon. Là, mais,
il y avait toute une équipe.
Ouais, et merci à Timical 78-88.
Lui, dans le fond, c'était le porteur de ballon, Ray.
C'était pas le porteur de ballon.
Oh, je l'ai!
Il était meilleur que ça, mais il y avait une sacrée bonne équipe en avant de lui.
Bon. Puis également, on a retiré également l'uniforme de la petite chinoise.
Oui, sûrement.
Parce qu'elle était... Si tu veux pas de la petite chinoise, hein, toi, t'es trop jeune, Pascal. Fait que c'était la placière au forum.
Okay.
C'était l'employé. Puis parce qu'elle passait sa veillée à la télévision.
Tout
quand on voyait le coach, elle était toujours debout à l'arrière du coach.
Ouais.
Tout le monde connaissait la petite chinoise.
Oui.
Fait que de 1 à 10, il reste 6 puis 8, c'est ça?
Oui.
Puis 3.
3.
Non, 3, c'est 3. Pas Émile Butch-Bouchard, ça?
Non, il est pas retiré, encore. Là. Fait que, écoute, mais bon, je sais pas, quelqu'un m'a envoyé là. Tim Cullough? Le gars sur Twitch, Tim Cullough? 78, quand même.
C'est ton nouveau recherchiste.
Et puis pour les nombres de places dans le stade, Rick, on se demandait le SoFi Stadium tantôt.
On les règle, les problèmes, un par un.
Il y a quelqu'un, un autre auditeur qui nous a texté la réponse. Il s'appelle Itipou 68.
J'adore.
Donc, il dit c'est 70 000 assis, 70 240 assis.
Merci.
Et c'est 100 240 pour les gros événements.
Il y a un beau voyage à se faire quand on va pouvoir retourner dans les stades, c'est-à-dire quelque part en 2021,
ah ouais,
j'ai espoir.
Ouais.
Ben, Los Angeles-Vegas.
Tu vas te louer un
char. Avec tous les nouveaux stades de Los Angeles-Vegas, tu pars une semaine ou deux, là,
ouais.
Avec le divertissement à Vegas, là. Hey, m'a dire une chose, ça, c'est un beau voyage à faire.
Ouais, mais juste Vegas.
Tu le fais, mettons, tu le fais pour avoir plus de sports possibles. Hockey, football, basket, ça se fait au mois de ce temps ici de l'année, octobre-novembre.
Ouais. Ouais, mais là, faut mettre un bémol à ce que tu dis, une affaire. Il y a deux types de voyages.
Ouais.
Il y a des voyages de boys,
ouais, ouais.
Puis il y a des voyages de couple.
Ouais, c'est plus un voyage de sport dont je te parlais.
Ouais, OK. Mais un voyage de couple, je vous dis, votre chérie, là, vous l'amenez au foot et au hockey.
Ouais, mais aussi.
Le foot puis le hockey vont se croiser quand même sur une longue
période.
C'est
de l'année.
C'est ça. Honnêtement, ça va être moi, ma blonde, on est allé voir les Knights, là. Puis même moi, c'est une des games de hockey les plus spectaculaires.
Oui.
Je me souviens même pas du score, c'était contre
qui.
Mais l'animation...
Mais tu peux le divertissement de Vegas. Puis Los Angeles, tu peux visiter ça quand même. Là.
Sérieusement, même
si c'est une ville qui m'a déçu. Ouais. Los Angeles, c'est une ville qui m'a déçu, honnêtement. Mais il y a San Francisco autour également, là. Tu pars une dizaine de jours avec deux fins de semaine dans ça, là. Hey, ça peut être
mais c'est loadé. Tu pars 10 jours, c'est loadé en maudit. Là.
On voyage pour... tu peux te reposer une journée ou deux, une piscine.
Tu te remettes le lendemain matin, des fois, tu te lèves. Tu as une graine dans le gaz. Là, tu sais,
Mais même moi, j'aime ça, les voyages sportifs. Fait que, sérieusement, il y a quelque chose là. C'est plus que d'être en personne.
Oui,
c'est pas juste la barbe à papa, toi. Là, là.
Émile Butch-Bouchard a été retiré son numéro 3 en 2009.
Merci.
Ah, fait que lui, là,
Tumulala.
Peux-tu le bannir, le gars, sur Twitch?
Non, on peut le bannir, mais c'est parce que t'as quand même fait ta recherche grâce à lui. Là,
donc, il reste 6 et 8.
6 et 8. 6, il va être retiré.
Dans les chiffres uniques.
6, Weber, il va être retiré.
Puis Charlie, 8. Je veux finir avec du hockey. D'abord, pour vous dire que il y a un joueur qui a pris sa retraite hier, Martin Anzal. C'est un joueur correct, là, un choix de première ronde qui a joué une douzaine de saisons. C'est terminé pour lui. Les Sénateurs s'entendent avec l'attaquant Chris Tierney, un contrat de 2 ans, 7 millions de dollars. De cette façon-là, Tierney, qui est âgé de 26 ans, évite l'arbitrage, qui est une bonne chose, mais 11 buts, ça vaut 7 millions pour 2 ans maintenant dans la Ligue nationale de hockey, ça a bien l'air. Tierney est un excellent patineur. C'est un joueur qui peut jouer sur un deuxième trio, je pense, présentement dans la Ligue nationale de hockey. Et deux histoires dont je veux vous parler. Une un peu triste. Ben, les deux sont tristes, mais il y en a une qui est une plus belle histoire que l'autre. Mitchell Miller, c'est un joueur qui a été repêché en quatrième ronde au dernier encamp de la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de l'Arizona. Et hier, on apprend que ce gars-là a été coupable de faire du bullying et de racisme envers un coéquipier de ça quelques années en Ohio. Il évoluait avec l'Université North Dakota. L'équipe des Coyotes de l'Arizona disent être bien au fait de ce qui est arrivé avec Mitchell Miller et on pense pouvoir l'aider pour la suite des choses.
Mais y a-tu été sanctionné?
Oui,
sûrement,
il a été accusé, mais il y avait 14 ans, 15 ans à l'époque, donc il n'a pas fait de prison. Et on lui a fait faire 25 heures de travaux communautaires. On lui a demandé d'écrire une lettre d'excuse également à l'individu qui l'a traité de brownie et de nègre. Donc, on espère qu'il a appris de ces choses-là.
C'est un côté coéquipier?
Oui, c'est un de ses coéquipiers.
C'est
sûr, c'est un peu ordinaire. Il a été repêché par les Coyotes de l'Arizona. Puis l'autre histoire, bien, c'est le décès hier de Joey Moss. Tu le connais, c'est sûr, tu l'as déjà vu. Joey Moss est décédé à l'âge de 57 ans. Non, 57 ans. Lui, il était responsable du vestiaire des Oilers d'Edmonton. Il est handicapé.
Ouais. Il souffre de trisomie. Oui. Ah oui, le petit... Oui,
il souffre de trisomie. En 1984, Wayne Gretzky sortait avec sa sœur à lui, Joey Moss, puis il jouait avec les Oilers d'Edmonton. Puis à un moment donné, il l'a amené à l'aréna avec lui. Le petit gars était fou comme balai. Alors, Wayne Gretzky a eu l'idée de dire au propriétaire, lui, il faut qu'il reste dans l'entourage de l'équipe. Il l'a nommé responsable du vestiaire. Il est responsable du vestiaire depuis 1984. Il est décédé à l'âge de 57 ans. Mais Joey Moss à Edmonton ce matin, là, c'est un des icônes du monde du sport.
Oui, puis on le voyait, il s'assoyait dans les estrades en arrière du banc des joueurs, dans les séries, il n'y a pas longtemps. Là.
C'est ça.
Durant le match, on le voyait tout le temps.
Les joueurs étaient... Lui était... Ils sont généreux, ces petits bonhommes-là.
Ben
c'est les gens atteints de trisomie.
Les tâches que souvent on va leur donner, elles ne vont pas toucher à ses affaires. Là,
on était fiers comme un père.
Non, puis ils le font. Là. Quand ma tante qui est trisomique, là, si elle a un micro-ondes à laver à son emploi, là, il est clean comme jamais. Ils prennent ça à cœur. Puis ils ne disent pas, il est propre. Non, tant qu'à voir encore quelque chose. Fait que ce petit bonhomme-là, ce qu'ils ont fait avec lui, je pense qu'ils ont fait la plus belle vie qu'ils pouvaient
avoir. Exact. Est-ce que ta tante, elle travaille-tu?
Oui, elle travaille. Elle va à l'école, elle travaille. Elle est super active en société. Ça, c'était quelque chose que ma grand-mère tenait à cœur.
C'était une des idées de départ, ça, quand on a créé le Gala des légendes avec Bob Bissonnette. Là. C'est sûr, ça brosse l'idée de vraiment de départ, c'était pas tout à fait ça. Là. Mais à un moment donné, quand on a ramené ça intelligemment, c'était de dire que, mettons, un trisomique qui se donne. Puis moi, je me souviens, le trisomique qui travaille au IGA à Sainte-Marie, puis qui travaille pour Francis Veilleux, mon ami, il travaillait aussi à l'aréna, puis il vidait les poubelles, mais c'était assidu à ses affaires. Puis la gang de Veilleux m'avait expliqué que, en plus, lui, il payait en monnaie. Parce que pour lui, là, un 20$ en papier, ça
valait rien.
Ça valait rien. Ça prenait de la monnaie en fer.
J'adore.
Fait qu'il y mettait de la monnaie en fer dans une enveloppe, puis ses parents recevaient la paye différemment. Alors, c'était ça, lui, de travailler. Il était tellement assidu. Et c'est à partir de là qu'on a créé le Gala des légendes en disant, il n'y a jamais personne qui honore les trisomiques, mais nous autres, on va le faire, on va leur donner un prix. Mmh. Et
sincèrement, la plus belle chose que tu peux faire pour eux, c'est justement qu'en société, ils soient actifs.
Ben
je vois à quel point ça la rend heureuse. En pandémie, c'est moins facile, elle ne comprend pas trop. Il faut qu'elle reste à la maison. Mais c'est incroyable le bonheur. Oui, puis je sais que... Mais moi, si j'étais enceinte d'un enfant trisomique, je le garderais. Parce que je sais tout le bonheur. Je sais que je vais être parent toute ma vie.
Il y a des inconvénients, mais...
Il y a des inconvénients. Je vais être parent toute ma vie. Je retrouverai pas ma vie de liberté et tout ça, comme les parents le retrouvent après un certain âge chez leurs enfants. Mais
beaucoup d'amour.
Ce que ça m'a apporté dans ma vie, l'ouverture d'esprit, l'ouverture face à la différence, mais surtout beaucoup d'amour, là.
Oui.
C'est ça que ma tante m'a apporté.
Good. Je pense qu'il n'y a pas même de monde qui prendrait une décision inverse, là, de toute façon.
C'est complexe, Steph. Là.
Moi, j'y réfléchirais. En toute honnêteté, j'y réfléchirais longtemps.
C'est sûr.
Très longtemps. Puis je pense que je ne prendrais pas la même décision que Pascal.
J'ai aucun jugement par rapport à ça.
C'est bien correct, on en jase. Là, puis je veux dire, c'est à tête reposée. Je pense que ma décision serait différente.
Ouais. Mais là, vous me regardez, mais je ne suis pas enceinte. Hein.
C'est ça. Tu n'as pas de décision à prendre.
Ça peut porter à confusion un peu.
Hey, avez-vous écouté un souper, avec mon ex hier?
Non,
vous écoutez pas ça?
J'ai pogné.
La fille est enceinte d'un père inconnu, puis la soupe, elle avait de la sauce sur le bord de la bouche. Ni son ex qui était là, Hey, puis c'est du monde de Québec, je pense, de Valcartier. Ni son ex en face, ni la production, parce qu'après ça, il s'assoit sur une chaise à part.
Personne n'y a dit.
Elle avait de la sauce sur le bord. Ouais. Ah, que ça fait. Ça faisait quasiment pitié un peu.
Je te le jure, à qui tu veux, de vrai, là. J'étais en train de t'écrire hier, te texter. Hey, je viens de pogner un souper avec mon ex, c'est donc ben triste.
Ça faisait pitié.
On dirait deux personnes qui sont complètement désaxées de la société, qui se parlaient publiquement, puis il y avait vraiment quelque chose de. C'était pas le fun en regardant.
Puis l'autre gars qui, lui, a fait venir sa blonde, l'autre couple, c'est toujours deux couples en alternance, là, tu sais, on voit des shots des deux affaires. L'autre, lui, il a tout intégré, sauf qu'il s'assumait pas, puis il a eu une blonde pendant 2 ans. Une belle fille, là, assez. Puis c'est des gens du Saguenay, mais lui, il était dans Love Story.
Oui, Kevin Kyle.
Ouais, mais moi, ça me disait rien.
Certains vont le reconnaître.
OK. Puis là, il demande à la fille, il dit, trouvais-tu qu'elle était molle des fois?
Sa première blonde, Émilie. J'ai ça ici. Ah ouais, les autres, c'est Bruno et Mélissa dont on parlait.
Bruno et Mélissa. Ah,
c'était eux qui
faisaient pitié un petit peu. C'était triste, oui. Tu sais, enceinte d'un père inconnu. Puis elle arrêtait pas de dire qu'il fallait qu'elle travaille sur elle-même. Tu sais, c'était. Honnêtement, tu sais, j'ai le même sentiment que Pascal. J'ai trouvé ça un petit peu triste, moi aussi, de voir ces deux personnes essayer de savoir comment. Pourquoi ils avaient rompu il y avait de cela quelques années.
Aussi triste que la coupe de cheveux de Kevin Kerr.
mais lui, tu sais, je veux dire. Il s'assume très bien.
Il est quoi?
C'était pas si pire que ça, là.
Non?
Et hier, non. En tout cas, pas dans l'émission. Ah,
la photo que j'ai là, oui. Mais okay. ça, c'est quoi? C'est une opinion.
Ah oui, c'est ça, la tienne. Ça va être correct, OK?
Ben...
Ça vient juste mon opinion, là.
Bon, c'est fini les sports.
Oui, la série NASCAR s'est remise à aujourd'hui, encore une fois. C'est à midi aujourd'hui au Texas. La course de NASCAR Cup.
À midi aujourd'hui? Ah, ben, ça va me faire de quoi en deux dodo? Bon, on va écouter ça.
Deux, trois choses en terminant, Ray.
C'était dans les deux, trois choses en terminant. Je voulais surtout parler de Joey Moss.
Puis là, t'as reçu une enveloppe brune.
Oui, ben...
Un scoop! Hey, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de scoop au 93. Un scoop avec Rick Loutier, il y a une enveloppe brune.
Non, mais c'est un livre que Pierre m'a commandé, puis je suis bien content. C'est « Comment Cindy Crosby a changé le hockey ». J'ai bien hâte de lire ça.
Okay,
c'est
donc...
écrit par un journaliste canadien. Gare Joyce.
Ben, ça, tu me fasses le résumé, je sais plus lire, moi. Okay.
Donc, c'est pas nécessairement sur la vie de Sidney Crosby, mais c'est son impact sur le monde du hockey en général.
J'ai hâte de voir, mais c'est en français, en plus, le livre qu'on a. J'aime beaucoup lire. Je lis souvent en anglais, mais ça me prend un petit peu plus de concentration. En français, ça va aller bien, donc.
Imagine-moi la concentration, rien que lire en français. C'est automatique.
Ça va se dévorer, ça.
OK. Vous êtes dans Dupont le matin. Il est 7h07 minutes.
C'est quand la prochaine fois qu'on parle de table avec mon ex, j'ai assez hâte.
Ben non, mais j'écoute toutes sortes d'émissions, là.
Oui, c'est sûr.
Regarde, je vous ai parlé de Manger l'histoire, là, il y a un instant, là. Hier, dans Manger l'histoire, là, il y avait une des choses les plus intéressantes, puis que vous connaissez, qui existe encore, je crois, mais c'était Chef Boyardi. Oui. Vous avez déjà entendu Chef Boyardi?
Oui, certain.
OK. Qui est Chef Boyardi?
C'est Marc Boilard.
Non, c'est M. Boyardi. Oh. C'est un Italien qui est débarqué aux États-Unis en 1800. Non, il est né en 1897.
J'ai mangé son ravioli très, très souvent, Chef Boyardi.
C'est vrai?
Oui.
C'est vrai?
J'aimais ça.
Ben oui, écoute, c'était... ce gars-là a inventé le doggy bag, d'amener les restants du restaurant.
Take-out,
ouais. Ouais, parce que lui, là, il a ouvert un restaurant à New York. Il était chef, tu sais, le gros hôtel qu'on voit dans... le petit gars qui manque l'avion,
Home
là.
Malone.
Cet hôtel-là, en face du Apple Store à New York, là, c'est la 5e avenue. Lui, il était chef, là. Il a d'ailleurs été chef au mariage d'un des présidents américains que je connaissais pas, j'avais jamais entendu son
nom. C'est son nom, Boyardi.
Oui, Boyardi. Mais on a changé la façon de l'écrire.
Boyardee.
Exactement. Mais c'était pas ça son vrai nom. Son vrai nom, là, c'était vraiment italien. Là, c'était Boyardi, puis les gens avaient de la misère à le dire. Puis c'était D.I., là, fait qu'ils l'ont changé pour que ce soit plus facile. Et lui, il a ouvert un restaurant en 1928.
Hector Boishardi.
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 Fait que c'est pour ça qu'on l'a changé son nom pour le commercialiser.
Hector.
Et lui, il a ouvert un restaurant, là, et ça faisait la file pendant des heures, mais il n'y avait rien qu'un plat, c'était du spaghetti bolognese.
Ouais, j'en ai plein, moi. Beefaroni, beef ravioli.
Oui, ça, c'est dans ses produits, mais à son restaurant.
Spaghetti bolognese, il faisait rien que ça, lui.
Oui, puis les gens.
gens... Le savon en joie le vert, ça faisait la file.
Hey, les gens, ils demandaient pour amener les restants, puis lui, il voulait pas.
Mm-hmm. Oh.
Et qu'est-ce qu'il faisait? On était un petit peu avant 1928. Il prenait les restants du monde. Hey, ça, c'est un peu dégueulasse, mais c'était tellement vrai. Et il les canait à la main.
Voyons donc.
Il canait les restaurants à la
main. C'est ça que je mangeais, moi.
Oui.
Puis il faisait du commerce?
Oui, là, pour que les gens puissent l'amener à la maison. Et c'est comme ça que Chef Boyardy est né.
Le MAPAC est en grève cette année.
Avec ses sauces à la viande et tout ça. Et,
Non. La personne qui mangeait l'assiette, il restait un reste. Il prenait.
Je pense que c'était...
Puis c'était une autre personne qui mangeait.
Ça pouvait arriver.
Mais oui, mais en quelle année? Je veux dire, on ne se lavait pas les mains dans ce temps-là.
On est en 1925 à peu près. Parce qu'à partir de 1920... Et là, il crée son usine de canage pour vendre des produits en canne, mais qui ont une date de péremption très, très courte à cette époque-là. Mais arrive la guerre, et là, l'armée américaine, à la Deuxième Guerre mondiale, dit « Hey, Chef Boyardy, tu vas nous faire des canages. » Et là, il fait des milliers de tonnes de canages pour nourrir les soldats.
Il se fait connaître comme faut.
Ben oui, t'as 18 ans, puis tu manges du Chef Boyardy à la guerre. Là.
Tu manges des
restants, si tu reviens... ben là, t'aimes ça, fait que... Et c'est comme ça que c'est né. Et les deux...
Je mange juste la guerre, moi, dans mon affaire. Je n'ai mangé de ça.
Ah oui! Moi aussi! Tu sais, du ragoût de boulet de cordon bleu,
ben
là.
Oui.
Hey, c'était un des plats, nous autres...
Pourquoi tu mets ça au passé?
Ah, parce que j'en achète plus, là. J'en fais, là.
Une fois de temps en temps.
Ouais, mais...
C'est comme le PFK deux fois par année. Là.
Oui, OK. Ah. Mais le ragoût de boulet de cordon bleu, on aimait les boulettes pousses d'un arbre. Fait que là, tu sais, c'est moins viande,
c'est
un petit
fantastique.
Peu. Mais... juste pour revenir à mes deux imbéciles, ils ont trouvé une boîte de Chef Boyardy qui était une lasagne, une boîte de lasagne, une boîte en carton.
Ouais.
OK? Et c'est ça, ça allait évoluer. Là, c'est juste du canage. Comme Rick, ce qu'il mangeait, c'est uniquement du canage. La sauce, tu réchauffes ça dans une chaudronne, c'est prêt.
Oui.
Mais en 1975, lui, il vendait des kits prêts. Donc, une boîte de carton, lasagne. Fait que tu avais les pâtes qui étaient lousses dans la boîte de carton. Tu avais un sachet de parmesan. OK, un petit sachet plastifié. Ouais. Non, il n'était pas plastifié. Il était comme en papier ciré de parmesan. Et tu avais une longue canne mince qui était la sauce à la viande pour mettre dans ta lasagne. Tu avais tout ça dans la boîte, là, préparé.
OK.
Et les gars, hier, ils ont trouvé une boîte de carton. Ils ont eu de la misère à la dater juste. Elle était entre 1975 et 1985. Alors, ils l'ont ouvert. Ils ont fait cuire les pâtes. Les pâtes, ils ont goûté à part. Ils étaient parfaites. Ils dataient de entre 75 et 85. Là. Et ensuite, ils ont ouvert le sachet de parmesan qui était complètement scrap. Là. C'était, il avait passé à travers le sac.
On s'en doute.
Et même la sauce à la viande, honnêtement, c'est une des choses les plus infectes. D'ailleurs, ils se sont gantés, masqués et avec des lunettes pour ouvrir la boîte. Elle avait mangé le métal de la canne tellement c'était oxydé.
Ah ouais.
Puis là, ils l'ont ouvert quand même et c'était... Ils rentrent une caméra dans la canne, là. C'est dégueulasse. C'est
ils n'ont pas mangé, c'est...
Non, ils n'ont pas mangé. Okay. Non, puis ils ont expliqué que...
Contente d'apprendre qu'ils ont
c'est
une
plate,
limite.
C'est
non, mais c'est des gars, hein?
Ça finit bien. C'est plate, cette émission-là.
Hey! La meilleure, là, c'est qu'ils ont fini l'émission sur le party. Ils se sont rendus à New York, dans un des plus vieux bars de New York, qui s'appelle le McSorley's.
Oui.
À M. McSorley, qui a été propriétaire du bar pendant 65 ans.
Mm-hmm.
Il n'était pas fort sur le ménage. Il n'y a aucune... Écoute, il y a des affiches sur le mur, des gens qui étaient recherchés, des dates mises à prix. La mafia.
C'est un beau décor, ça.
Ah oui, c'est
moi, j'aime
hot.
Ça.
Ah, puis je vais y aller, là. Je l'ai pris en note. Puis le McSorley's.
Ah, c'est populaire.
C'est écrit, là, en face. McSorley's Old Ale House. Mm-hmm. Ça a ouvert en 1854.
Et où, exactement?
Honnêtement, je l'ai pas googlé encore. Et le monsieur McSorley, il est mort.
Mm-hmm.
Puis lui, là, en passant, quand les Rangers de New York ont gagné la Coupe Stanley en 94...
Marty McSorley jouait pour eux.
Je sais pas, mais il doit avoir un lien. Mais en tout cas, ils avaient déjà réservé le McSorley, fait qu'il y avait pas de
pour
client.
La fête, pour le party.
C'est ça, c'est l'endroit où ils ont rempli la Coupe Stanley de bière, c'est au McSorley.
C'est peut-être là que j'entends
c'était
pas.
C'était privé.
Ça, ça me dit quelque chose, ce McSorley à New York.
OK, mais c'est ça. Puis c'est une institution, une genre de taverne. Oh, oui. Là. Puis là, le monsieur McSorley, il est mort.
Oui.
Et la fille de monsieur McSorley a invité les deux gars de Manger l'Histoire, là, qui sont connus aux États-Unis, à venir fouiller dans le bureau de leur père, puis parce qu'il y a des cochonneries. Écoute, c'était entassé de cochonneries. Et ils ont trouvé un whisky à l'abricot, un Bowles, qui est la plus vieille maison de whisky au monde. Écoute, le whisky avait probablement 75 ans, à peu près. Et il y avait comme une... Tu sais ce que tu avais quand tu étais petite, Pascal? Un coffre à bijoux, là, puis qui sort une danseuse, là.
Ouais.
Pas une danseuse, une ballerine, là.
Oui.
Il y avait ça dans la bouteille. Il y avait une ballerine dans la bouteille de whisky. C'était à l'époque,
c'est
là.
C'est le concept.
Ouais, exactement. Et ils ont ouvert la bouteille de whisky. Moi, je sais pas comment. Ils ont jamais dit comment elle valait, mais elle devait valoir extrêmement cher.
Ils ont eu le droit de l'ouvrir.
Et oui, la fille avait dit, garde, tout ce que vous trouverez, vous pourrez le consommer.
Oh.
Mais
ah ouais.
Sur place. Et ils ont goûté ça, là, ils capotaient. Ça coûtait beaucoup l'abricot, là.
Mais ça coûtait de l'alcool fort, je veux dire. C'est encore bon, là.
C'est toujours bon. D'ailleurs, on paye plus cher quand ça vieillit, me semble. Fait que, voilà, pour manger l'histoire. N'écoutes-tu des émissions de fucké?
Fait que le Boyardi, c'est aussi le précurseur de toutes les boîtes good food de ce monde.
Ben, je sais pas si on startait une compétition, qui a été le premier à mettre du stock en canne, là.
Non, mais de sa boîte.
Avec sa boîte,
tout ce qu'il
oui.
Faut, c'est un good food de 2020.
C'est vrai, d'une certaine façon, avec ses lasagnes toutes préparées. Fait que j'étais content de connaître l'histoire de Chef Boyardi.
Sur la 7e rue à New York, le McSorley's.
Ah ouais, OK. Je vais y aller, c'est sûr, sur ça.
McSorley's Old Ale House.
Bon, fait que au coin de quelle rue, c'est-tu?
7e.
7e, c'est pas loin.
Du Madison Square Garden.
Non, mais si c'est 15e, là, c'est à l'autre bout de l'île.
15 Est.
OK.
C'est ça.
Ah, donc c'est beaucoup plus. C'est plus vers le Financial District, là. Donc,
ouais, non, bonjour, okay. Reste combien de monde dans le pool, trompe-toi pas?
Aucune idée.
Faudrait savoir parce qu'on a vraiment beaucoup de questions là-dessus.
Oui, OK. Et... C'est que notre gars qui gère ça est enfermé dans un sous-sol. Et il n'est pas atteint du COVID, mais là, on doute une maladie mentale. Fait qu'il est en absence prolongée.
Et les patates frites là, dans l'assiette du McSorley's là, sont grosses, grosses puis larges.
Tu sais, genre, ils font 4 frites avec une patate.
Oh, oui, c'est ça.
Ah, OK.
C'est vieux, vieux.
Qui est encore dans le pool, trompe-toi pas, ici, d'ailleurs?
Ben, toi,
mais c'est une question,
au cumulatif des années, je pense que t'as pas encore rattrapé personne, en passant.
Hein?
C'est ça que je dis.
Ah oui, là, j'ai plusieurs semaines de fête, là.
Ah. Puis, on dirait un salaire que carton, non, ce serait carton.
C'est pas du carton?
C'est pas un basic non plus, c'est un basic.
Vous êtes dans Dupont le matin, si vous le saviez pas. C'est un monde bizarre. Mais j'essaie. Tu sais, c'est mon univers. Tu sais, on a une nouvelle directrice qui s'appelle Brigitte. Puis, honnêtement, contrairement à mes 5 dernières années de radio, c'est assez étonnant ici parce qu'il y a du monde qui écoute. Fait que, je veux dire, du monde qui travaille ici qui écoute. Et elle dit, elle a été sur le choc pendant 3 jours. Hein, tu sais, elle voulait consulter, prendre des pelules. Elle dit, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Tu sais, entrer dans le monde, puis elle est très, elle dit ça, elle est candide quand elle explique que ça a pris un minimum de 3 jours, puis elle en fait encore des rechutes. Mais tu sais, elle expliquait que quand tu embarques dans cet univers-là, ben là, tu comprends qu'il y a des mots...
Candide,
c'est bon, ça?
Oui, c'est très bon.
Oh, je l'écoutais, ça, cette émission-là, au pays de Candide. Écoutez-vous ça,
Ah, la petite blonde, là,
ouais.
Avec une robe rose.
Fait que, c'est ça. C'est un
Candide.
Univers particulier. Tous les personnages de cette émission-là existent, pour vrai. T'sais, ça peut arriver que vous frappiez Caillou sur la rue, puis tomber face à face avec Willy, puis Banane moins. Banane sort pas bien, bien. Tipette, là, il était à la chasse, mais...
Brigitte, elle aime bon monde, au final.
Elle a l'impression qu'elle les connaît, tous ces personnages-là. Puis là, j'essayais d'expliquer, non, mais c'est parce que t'es pas prête, là. Tu sais, j'aimerais ça, on pourrait organiser quelque chose avec tout ce monde. Non, tu peux pas, non. Tu peux pas faire ça. Tu sais, mettre Tiboc, Banane, tout ce monde-là dans le...
On essaie d'avoir Caillou comme chroniqueur une fois par semaine. Ça marche pas.
Ah, Caillou.
Moi, Willy, c'est...
un gros nul.
Ouais, Willy, un gros
spécial.
Nul, Caillou, gros nul.
Salut, Caillou.
J'ai écouté le point de presse à 17h avec Willy hier.
Il est encore chez vous?
Ouais, oui, il est encore là, puis il revient aujourd'hui.
C'est quoi
là,
ses commentaires?
Là, j'ai hâte, là, ça achève. Là.
Le hein? point de presse, c'est quoi ses commentaires?
On voit les terres.
Les terres, oui, il y aurait beaucoup de...
La petite blonde avec une robe rose, c'est Candy. C'est même pas Candide, c'est pas Candide.
Ça arrive que je mélange des mots, hein, en passant.
Non.
Fait que, okay, hey, il est 7h20, presque. C'est terminé pour les sports.
Oh, c'est plus tard qu'hier encore.
La classeur n'est pas arrivée encore et on ne voit pas les Rocheuses encore à ma gauche, là, parce qu'il fait un petit peu trop noir.
Ce serait les Laurentides, Stéphane. Il y a une dame qui a appelé.
Dans la Laurentide, hey, on a-tu bu de la Laurentide quand on était jeune? Hein?
C'est pas ce qu'il disait.
On vient dans un instant.